Renzo, à travers cette vaste scène de désolation, avait déjà fait une bonne partie de son chemin, lorsque, étant encore assez loin d'une rue dans laquelle il devait tourner, il entendit, comme venant de là, une rumeur confuse où l'affreux tintement de sonnette se faisait, comme à l'ordinaire, remarquer. Arrivé au coin de la rue, qui était une des plus larges, il vit dans le milieu quatre chariots arrêtés, et là le même mouvement qui se voit dans un marché au grain, lorsque chacun s'y porte, que l'on va et l'on vient, que les sacs y sont tour à tour chargés sur l'épaule et mis bas par les porteurs. Des Monatti entraient dans les maisons, d'autres en sortaient, portant sur leur dos un fait qu'ils allaient déposer sur l'un ou l'autre des chariots. Quelques-uns étaient revêtus de leur livrée rouge. D'autres n'avaient pas cette marque distinctive, plusieurs en avaient une plus odieuse encore. Des panaches et des pompons de diverses couleurs, dont les misérables se paraient, comme en signe de fête, au milieu du deuil universel. Tantôt d'une fenêtre, tantôt d'une autre, se faisait entendre ce cri lugubre. « Ici, Monatti !» Et du milieu de ce triste remuement, s'élevait une voix rauque et grossière qui répondait « Tout à l'heure !» Ou bien, c'étaient des voisins qui demandaient, en murmurant, qu'on se dépêchât et auxquels les Monatti envoyaient leurs jurements en réponse. Renzo, entré dans la rue, hâtait le pas, cherchant à ne regarder ces fâcheux obstacles qu'autant que c'était nécessaire pour les éviter, lorsque ses yeux rencontrèrent un objet qui se distinguait de tous autres pour émouvoir les âmes et les engager à le contempler. Aussi Renzo s'arrêta-t-il, presque sans le vouloir. De la porte de l'une de ces maisons descendait et venait vers le convoi une femme dont la figure annonçait une jeunesse avancée, mais qui n'avait pas atteint son terme. Et sur cette figure se voyait une beauté voilée, obscurcie, mais non effacée, par une grande souffrance et par une langueur de mort. Cette beauté, empreinte tout à la fois de grâce et de majesté, qui brille parmi le sexe en Lombardie. Sa démarche était pénible, mais soutenue. Ses yeux ne répandaient point de larmes, mais ils portaient les marques de toutes celles qui en avaient coulé. Il y avait dans cette douleur je ne sais quoi de calme et de profond qui indiquait une âme tout occupée à la sentir. Mais ce n'était pas seulement ce que cette femme avait de remarquable en sa personne qui, au milieu de tant de misère, appelait si particulièrement sur elle la compassion et pour elle ravivait ce sentiment désormais lassé et comme éteint dans les cœurs. Elle tenait dans ses bras une petite fille d'environ 9 ans, morte, mais toute proprement ajustée, les cheveux finement partagés sur le front, pour vêtement une robe d'une parfaite blancheur, rien d'oublié, rien d'omis, comme si les mains qui avaient pris ce soin l'avaient parée pour une fête promise depuis longtemps et accordée à titre de récompense. Elle ne la portait point couchée, mais droite, la poitrine appuyée sur sa poitrine, comme si elle eût été vivante. Seulement une petite main d'un blanc de cire pendait d'un côté avec une certaine pesanteur que l'on voyait inanimée, et la tête de l'enfant reposait sur l'épaule de sa mère avec un abandon plus marqué que celui du sommeil. De sa mère, car lors même que la ressemblance de ces deux figures n'en eût fourni un suffisant indice, on l'aurait aussitôt reconnue dans les traits de celle des deux qui exprimait encore un sentiment. Un sale Monatto s'approcha pour prendre le corps de l'enfant des bras qui l'apportaient, ce qu'il faisait cependant avec une sorte de respect inaccoutumé et une hésitation involontaire. Mais la mère, se retirant un peu en arrière, sans montrer cependant ni colère ni mépris. « Non, dit-elle, pour le moment ne la touchez pas. Il faut que je la pose moi-même sur ce chariot. Tenez. » En disant ces mots, elle ouvrit une de ses mains, montra une bourse et la laissa tomber dans la main que le Monato lui tendit. Puis elle ajouta, « Promettez-moi de ne pas lui ôter un fil de ce qu'elle a sur elle, et de ne permettre que nul autre ose le faire, mais de la mettre en terre telle qu'elle est là. » Le Monato s'appliqua la main sur la poitrine en signe d'engagement. Puis, tout empressé et presque obséquieux, plus par le nouveau sentiment dont il était comme subjugué que par la récompense inattendue qu'il venait de recevoir, il se mit à faire sur le chariot un peu de place pour la petite morte. La mère, donnant à celle-ci un baiser sur le front, la mit là comme sur un lit, l'arrangea, étendit sur elle une blanche couverture et lui dit ses dernières paroles. « Adieu, Cecilia, repose en paix. Ce soir, nous viendrons te rejoindre pour rester toujours avec toi. En attendant, prie pour nous. De mon côté, je prierai pour toi et pour les autres. » Après quoi, se tournant de nouveau vers le Monato, « Vous, dit-elle, en repassant par ici vers le soir, vous monterez pour me prendre aussi, et vous ne me prendrez pas seule. » En achevant ces mots, elle rentra dans la maison, et un moment après, on la vit à la fenêtre, tenant dans ses bras une autre petite fille, plus jeune, vivante, mais ayant dans ses traits les signes de la mort. Elle demeura là à contempler ces indignes obsèques de la première, jusqu'à ce que le chariot se mît en mouvement, et aussi longtemps qu'elle put le suivre des yeux, puis elle disparut. Et que put-elle faire, si ce n'est déposer sur son lit l'unique enfant qui lui restait et se coucher à ses côtés pour mourir avec elle, comme la fleur déjà riche de tout son éclat tombe avec le tendre bouton lorsque vient à passer la faux qui égalise toutes les herbes de la prairie. « Ô Seigneur, s'écria Renzo, exaucez-la, prenez-la près de vous, elle et sa pauvre enfant, elles ont assez souffert, oui, elles ont assez souffert. » Revenu de cette émotion, et tandis qu'il cherchait à se remettre en mémoire son itinéraire pour savoir s'il devait tourner à la première rue qu'il allait trouver, et si c'était à droite ou à gauche, il entendit venir de cette rue même un nouveau bruit, différent du premier, un mélange confus de voix d'hommes, de femmes et d'enfants, de cris impérieux, de gémissements, de sanglots. Il avança, le cœur disposé à quelque nouveau spectacle de douleur. Arrivé à la rencontre des deux rues, il vit, dans celle où il venait d'aboutir, une troupe de toutes sortes de personnes qui étaient en marche vers lui, et il s'arrêta pour la laisser passer. C'étaient des malades que l'on conduisait au lazaret. Les uns poussaient par force, résistant en vain, criant en vain qu'ils voulaient mourir sur leur lit, et répondant par d'inutiles imprécations aux ordres et aux jurements des Monatti qui les menaient. D'autres marchant en silence, sans montrer ni douleur, ni aucun autre sentiment, comme s'ils avaient perdu celui même de leurs mots. Des femmes avec leurs nourrissons suspendus à leur cou. Des enfants effrayés de ces tristes clameurs, de ces ordres, de ce cortège, plus que de la pensée confuse de la mort, et demandant à grands cris les bras de leur mère, le toit sous lequel ils avaient vu le jour. Et peut-être, hélas, leur mère qu'ils croyaient avoir laissée endormie sur sa couche s'y était jetée, surprise tout à coup par la peste, et y demeurait privée de sentiments, pour être emporté sur un chariot au lazaret ou dans la fosse si le chariot arrivait plus tard. Peut-être, ô malheur digne de larmes encore plus amères, leur mère, absorbée dans ses propres souffrances, avait tout oublié dans ce monde, tout jusqu'à ses enfants, et n'avait plus qu'une pensée, celle de mourir en paix. Cependant, parmi cette confusion si grande, on voyait encore quelques exemples de fermeté et de constance dans les affections de la nature. Des pères, des mères, des frères, des fils, des époux, qui soutenaient ceux qui leur étaient chers et les accompagnaient en les encourageant par leurs paroles. et ce n'étaient pas seulement des personnes adultes, mais de jeunes enfants de l'un et de l'autre sexe, que l'on voyait marcher auprès de leurs frères, de leurs sœurs, plus jeunes encore, les consoler avec ce bon sens et cet intérêt qui semble n'appartenir qu'à un âge plus avancé, les exhorter à être obéissants, en les assurant qu'ils allaient dans un lieu où l'on prendrait soin d'eux pour les faire guérir. Au milieu de la tristesse et de l'attendrissement que de semblables tableaux faisaient naître dans l'âme de notre voyageur, une inquiétude plus particulière l'agitait. La maison vers laquelle il marchait ne devait pas être éloignée, et peut-être parmi cette troupe. Mais lorsqu'elle eut passé tout entière, sans que ce doute se fût vérifié, il se tourna vers Amonato, qui marchait l'un des derniers, et lui demanda où était la rue et la maison de Don Ferrante. « Va-t'en au diable, maraud !» fut la réponse qu'il en reçut. Il ne crut pas devoir prendre la peine d'y répliquer comme elle le méritait. Mais, voyant à deux pas de là, un commissaire qui fermait la marche du convoi et qui avait l'air un peu plus humain, il lui fit la même demande. Celui-ci, montrant avec son bâton le côté d'où il venait, dit « La première rue à droite et la dernière grande maison, à gauche. » Le jeune homme, avec un trouble qui devenait toujours plus vif, va vers l'endroit qui lui est indiqué. Le voilà dans la rue, où il distingue aussitôt cette maison parmi les autres plus petites et moins apparentes. Il s'approche de la porte qui est fermée, pose la main sur le marteau et l'y arrête hésitante, comme s'il la tenait dans une urne d'où il va tirer le bulletin qui doit décider de sa vie ou de sa mort. Enfin il lève le marteau et frappe un coup avec résolution. Au bout de quelques moments, une fenêtre s'ouvre un peu. Une femme s'y montre à demi, regardant qui frappe, mais d'un air inquiet et soupçonneux, qui semble dire « Qui est-ce ? Des Monatti ? Des vagabonds ? Des commissaires ? Des untori ? Des diables ?»« Madame, » dit Renzo, levant les yeux en l'air et d'une voix mal assurée. Est-ce ici que demeure, comme fille de service, une jeune personne de la campagne, nommée Lucia ? Elle n'y est plus, allez-vous-en, répondit la femme en se disposant à refermer. Un moment, de grâce, elle n'y est plus, où est-elle ? Au lazaret, et de rechef, elle allait fermer. Mais un moment, pour l'amour de Dieu, est-ce qu'elle a la peste ? Sans doute, c'est du nouveau, n'est-ce pas ? Allez-vous-en. Oh, malheureux que je suis ! « Attendez, était-elle bien malade ? Combien de temps y a-t-il ? » Mais pendant qu'il parlait, la fenêtre s'était fermée tout de bon. « Madame, madame, un mot de grâce, au nom de vos pauvres défunts, je ne vous demande rien du vôtre, oui !» Mais c'était comme s'il parlait au mur. Affligé de la nouvelle et irrité de tant de désobligeance, Renzo saisit encore le marteau et, appuyé contre la porte, il le serrait et le tournait dans sa main, le levait pour frapper de plus belle et en désespérer, puis le tenait en l'air en hésitant. Au milieu de cette agitation, il se tourna pour chercher s'il ne verrait pas quelque voisin de qui il pût avoir quelque renseignement plus précis, quelque indice, quelque lumière. Mais la première, la seule personne qu'il vit, fut une autre femme, éloignée d'une vingtaine de pas, qui, avec une figure où se peignaient l'effroi, la haine, l'impatience et la malice, avec certains yeux hagards qui se portaient tout à la fois sur lui et loin derrière lui, ouvrant la bouche comme pour crier de toutes ses forces, mais retenant en même temps sa respiration, levant deux bras décharnés, allongeant et retirant deux mains ridées et pliées en façon de griffes, comme si elle cherchait à attraper quelque chose, montrait clairement qu'elle voulait appeler du monde, mais de manière que quelqu'un ne s'en aperçût pas. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, cette femme, devenue encore plus laide, tressaillit comme une personne prise sur le fait. « Que diable ! » commençait à dire Renzo en levant également les mains vers la femme. Mais celle-ci, voyant qu'elle ne pouvait plus espérer de le faire saisir à l'improviste, laissa échapper le cri qu'elle avait jusqu'alors retenu. « Alluntore ! Donnez dessus ! Donnez dessus ! Alluntore !»«
Qui ? Moi ?» cria Renzo. « Ah, vieille sorcière ! Impudente menteuse ! Tais-toi !»
Et il fit un saut vers elle pour l'effrayer et la faire taire. Mais il s'aperçut en ce moment qu'il devait plutôt songer à ce qui allait se passer pour lui. Au cri de la vieille, il accourait du monde de divers côtés. Non pas la foule qui, dans un cas semblable, se serait formée 3 mois auparavant, mais bien plus de bras qu'il n'en fallait pour assommer un pauvre homme. En même temps, la fenêtre se rouvrit, et la même personne, qui peu de moments avant lui avait fait si mauvais accueil, s'y montra cette fois à plein, en criant elle aussi « Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Ce doit être un de ces coquins qui rôdent, pour oindre les portes des honnêtes gens !» Renzo ne perdit pas son temps à délibérer. Sur le champ, il jugea que ce qu'il avait de mieux à faire était de se sauver des mains de ces gens et non de rester à leur expliquer ses raisons. Il jeta un coup d'œil à droite et à gauche pour voir le côté où ils étaient le moins nombreux, et ce fut par là qu'il prit sa course. D'une rude poussée, il écarta un homme qui lui barrait le passage. Un autre accourait à sa rencontre. D'une gourmade bien appliquée dans la poitrine, il le fit reculer à 10 pas et continua de jouer des jambes, le poing levé, serré, prêt pour tout autre qui serait venu se mettre sur son chemin. La rue, en avant de lui, était libre. Mais sur ses derrières, il entendait les pas de ceux qui couraient après lui et, plus retentissant que leurs pas, ses cris alarmants. « Donnons dessus ! Donnons dessus ! Alluntore !» Il ne savait quand la poursuite s'arrêterait. Il ne voyait aucun lieu où il pût s'y soustraire. Sa colère devint de la rage. Son trouble se changea en désespoir. Les yeux comme voilés d'un nuage, il saisit son grand couteau, le dégaina, s'arrêta court, tourna vers la tourbe ennemie, la figure la plus farouche, la plus furieuse que jamais il eût prise, et, le bras tendu, brandissant au-dessus de sa tête la lame luisante de son arme, il cria. « Que celui de vous qui a du cœur s'avance, canaille ! Je vous réponds qu'avec ceci, je vais loindre tout de bon !» Mais il vit avec étonnement et une vague satisfaction que ceux qui le poursuivaient s'étaient arrêtés comme s'ils eussent hésité à passer outre et que, de là, continuant de crier, il faisait, en levant les mains, certains signes de furibond qui semblaient s'adresser à d'autres venant de loin derrière lui. Il se tourna de nouveau et vit ce que son trouble ne lui avait pas permis de remarquer l'instant d'auparavant. Un chariot qui s'avançait, ou plutôt la file ordinaire des chariots chargés de morts, avec leur accompagnement accoutumé, et par derrière, à quelque distance, une autre petite troupe de gens qui auraient bien voulu venir aussi tomber sur l'Untore et le prendre entre eux et ceux de l'autre côté, mais qui, de même que ceux-ci, étaient retenus par l'obstacle que présentait le convoi. Se voyant ainsi entre deux feux, il lui vint à l'esprit que ce qui était un objet de crainte pour ses enragés pouvait être pour lui un moyen de salut. Il pensa que ce n'était pas le moyen de faire le délicat. Il rengaina son couteau, se mit sur le côté de la rue, reprit sa course vers les chariots, dépassa le premier, remarqua sur le second un assez large espace vide, d'un coup d'œil mesura le saut, s'élança, et le voilà sur le chariot, posé sur le pied droit, le gauche en l'air, les bras levés, dans l'attitude de la victoire. « Bravo ! Bravo ! » s'écrièrent tous ensemble les Monatti qui conduisaient le convoi, les uns à pied, d'autres montés sur les chariots, d'autres encore, pour dire la chose dans toute son horreur, assis sur les cadavres et buvant à une grande bouteille qu'ils se passaient de main en main. « Bravo, voilà un beau coup !»« Tu es venu te mettre sous la protection des Monatti, c'est tout comme si tu étais dans une église !» lui dit l'un des deux qui se trouvait sur le chariot où il avait sauté. Les ennemis de Renzo, à l'approche des voitures, avaient pour la plupart tourné le dos et faisaient retraite en continuant toutefois de crier.
« Donnez dessus ! Donnez dessus ! Alluntore !»
Quelques-uns s'éloignaient plus lentement et, de temps en temps, s'arrêtaient pour se tourner en faisant des gestes de menace vers le jeune homme qui, du haut de son chariot, leur répondait en agitant ses poings en l'air.
« Laisse-moi faire !» lui dit Amonato.
Et, arrachant de dessus un cadavre, un linge dégoûtant, il le noua à la hâte. Puis, le prenant par l'un des bouts, il l'éleva comme une fronde vers ses obstinés, en faisant mine de vouloir le leur lancer et en criant
« Attendez, canaille !»
À cette vue, tous s'enfuirent, saisis de frayeur. Et Renzo ne vit plus que le dos de ses ennemis et des talons qui dansaient rapidement en l'air comme les battoirs d'un moulin à foulon. Parmi les Monatti s'éleva un hurlement de triomphe, une tempête d'éclats de rire, un « Ouh !» prolongé, comme pour accompagner cette fuite.
« Ah ah, vois-tu si nous savons protéger les honnêtes gens ?»
dit à Renzo, le Monatto qui avait fait la démonstration décisive. « Un seul de nous vaut plus que 100 de ces poltrons. »«
Je puis bien dire que je vous dois la vie, » répondit Renzo, « et je vous remercie de tout mon cœur. »
« De quoi donc ? » dit le Monatto. « Tu le mérites. On voit que tu es un bon garçon. Tu fais bien d'oindre cette canaille. Continue de les oindre. Extermine-les tous, ces coquins-là, qui ne valent quelque chose que lorsqu'ils sont morts. Qui, pour nous payer de la vie que nous menons, nous maudissent et vont disant que, lorsque la peste sera finie, ils nous feront tous pendre. Ce sont eux, les gredins, qui finiront avant la peste. » Et les Monatti resteront seuls à chanter victoire et se divertir dans 1000 ans.
« Vive la peste et meurt cette canaille !»
s'écria l'autre, et, en prononçant cet aimable toast, il porta la bouteille à sa bouche. Et, la tenant de ses deux mains, au milieu des secousses du chariot, il y but à longue gorgée, après quoi il la présenta à Renzo en disant
« Bois à notre santé !»«
Je vous la souhaite à tous de bon cœur, » dit Renzo. « Mais je n'ai pas soif. Je n'ai vraiment pas envie de boire en ce moment. »«
Tu as eu une belle peur, à ce qu'il me semble, » dit le Monatto. « Tu m'as la mine d'un pauvre ouvrier, dans le métier que tu fais. Ce sont d'autres figures que la tienne qu'il faut pour être untoré. »«
Chacun s'industrie comme il peut, » dit l'autre. « Donne-moi la bouteille à moi, » dit un de ceux qui marchaient à côté du chariot. « Je veux aussi boire encore un coup à la santé de son maître. » qui se trouve dans cette gentille compagnie, là, tout juste, si je ne me trompe, dans cette belle carrossée. » Et, avec un sourire atroce, il montrait le chariot qui précédait celui sur lequel était le pauvre Renzo. Puis, prenant un sérieux plus hideux encore de scélératesse, il fit une révérence de ce côté et ajouta « Permettez-vous, mon cher monsieur, qu'un pauvre Monatto ose tâter du vin de votre cave ? Vous voyez, on fait une vie. C'est nous qui vous avons mis en carrosse pour vous mener à la campagne. D'ailleurs, le vin vous fait mal, à vous autres, messieurs. Les pauvres Monatti ont bon estomac. » Et, au milieu des rires de ses camarades, il prit la bouteille, l'éleva en l'air. Mais, avant de boire, il se tourna vers Renzo, le regarda fixement, et lui dit avec une certaine mine de compassion méprisante « Il faut que le diable avec qui tu as fait pacte soit bien jeune, car si nous ne nous étions trouvés là pour te sauver, tu n'aurais pas eu de lui grand secours. » Et, applaudi par de nouveaux rires, il appliqua la bouteille à ses lèvres.
« Et nous ? Ohé, et nous ?»
crièrent plusieurs voix du chariot qui précédait. Le coquin, après s'être abreuvé de tout son soûl, présenta des deux mains la bouteille aux autres, lesquels se la firent encore passer à la ronde, jusqu'à l'un d'eux, qui, l'ayant vidée, la prit par le goulot, lui fit faire le moulinet, et l'envoya se briser sur le pavé, en chantant « Vive la peste !» Puis il entonna une de leurs laides chansons, et aussitôt à sa voix se joignirent en chœur toutes les autres. le concert infernal, mêlé au tintement des sonnettes, au bruit des roues criant sur leurs essieux, au piétinement des chevaux sur le pavé, résonnait dans le vide et le silence des rues. Et, retentissant à l'intérieur des maisons, il venait serrer le cœur aux peu de personnes qui les habitaient encore. Mais de quoi ne peut-on quelquefois s'accommoder dans la vie? Quelle est la chose qui ne peut paraître bonne en certaines situations? Le danger du moment d'auparavant avait rendu plus que tolérable à Renzo la compagnie de ses morts et de ses vivants même. Et maintenant, ce fut pour ses oreilles une musique, je dirais presque agréable, que celle à laquelle il devait devoir cesser pour lui l'embarras d'une telle conversation. Encore tout troublé, tout bouleversé, il remerciait en son cœur et de son mieux la Providence de s'être tiré d'un tel péril sans avoir reçu de mal ni en avoir fait à personne. Il la priait de l'aider maintenant à se délivrer de ses libérateurs. Et de son côté, il se tenait prêt, regardant alternativement et la rue et ses hommes, à saisir le moment où il pourrait se laisser glisser en silence sans leur donner occasion de faire quelque tapage, quelque scène qui inspira de mauvaises idées aux passants. Tout à coup, au détour d'un coin, il lui sembla reconnaître les lieux. Il regarda plus attentivement et fut sûr de son fait. Savez-vous où il était? Sur le cours de Port-Oriental, dans cette rue où il était venu tout lentement et s'en était retourné si vite, environ 20 mois auparavant. Il se souvint aussitôt qu'on allait par là tout droit au Lazaret, et cet avantage de se trouver précisément sur son chemin sans l'avoir cherché, sans l'avoir demandé à personne, lui parut une faveur spéciale de la Providence en même temps qu'un heureux présage pour les événements qui restaient à s'accomplir. Dans ce moment, un commissaire venait au-devant des chariots en criant au Monatti de s'arrêter et je ne sais quoi encore. Toujours est-il que l'on fit halte et la musique se changea en de bruyants colloques. Un des Monatti, qui était sur le chariot de Renzo, sauta à bas. Renzo dit à l'autre « Je vous remercie de votre charité, Dieu vous la rende !» Et il sauta de même de l'autre côté. « Va, va, pauvre petit untore !» répondit le Monatto. « Ce ne sera pas toi qui dépeupleras Milan !» Par bonheur, il n'y avait là personne qui pût l'entendre. Le convoi était arrêté sur la gauche du cours. Renzo se hâta de prendre l'autre côté et, rasant le mur, il s'avance bien vite sur le pont. Il le passe, suit la rue du Faubourg, reconnaît le couvent des Capucins. Déjà il est près de la porte, il voit l'angle du Lazaret. Il franchit la barrière et devant lui se déploie la scène que présentait le dehors de cette enceinte, scène qui, à peine, donnait une idée de celle du dedans et qui, cependant, était déjà vaste, variée dans ses horreurs, impossible à décrire. Le long des deux côtés de l'édifice, qui de ce point s'offrent à la vue, ce n'était de toutes parts que mouvement et agitation. Les malades allaient par troupes au Lazaret. Nombre d'entre eux étaient assis ou couchés sur les bords du fossé qui en suit les murs. Et c'étaient ceux à qui les forces avaient manqué pour atteindre jusqu'à l'établissement, ou bien ceux qui, en étant sortis par désespoir, s'étaient vus également, par leur faiblesse, dans l'impossibilité d'aller plus loin. D'autres erraient isolés, dans une sorte de stupidité, plusieurs même tout à fait privés de leur raison. L'un s'échauffait à raconter ses rêveries à un malheureux couché par terre et accablé par le mal. L'autre s'agitait en mouvements désordonnés. Un autre encore se montrait tout riant, comme s'il assistait à un gracieux spectacle. Mais ce qui faisait le plus de bruit et semblait le plus étrange dans cette manie de si triste gaieté était un chant élevé et continuel qu'on aurait dit ne pas venir du milieu de cette misérable multitude et qui dominait cependant toutes les autres voix. une de ces chansons populaires de plaisir et d'amour que l'on appelait villanelle. Et si l'on voulait du regard suivre le son pour découvrir qui pouvait se livrer à la joie dans un temps pareil et dans un tel lieu, on voyait un malheureux qui, assis tranquillement au fond du fossé, chantait à gorge déployée, le visage en l'air. Renzo avait à peine fait quelques pas le long du côté méridional de l'édifice lorsqu'il s'éleva parmi la foule une rumeur extraordinaire, et de loin se firent entendre des voix qui criaient « Gare, gare, arrêtez-le !» Il se dresse sur la pointe des pieds et voit un grand vilain cheval qui venait ventre à terre, poussé par un cavalier d'un aspect plus désagréable encore. C'était un frénétique qui, ayant vu cet animal libre près d'un chariot, était bien vite monté dessus et, le frappant à coups redoublés de son poing sur le cou, de ses talons dans le ventre, le faisait aller à bride abattue. Derrière venait Demonatti en criant, et tout cela, presque aussitôt, se perdit dans un nuage de poussière. C'est dans l'état d'étourdissement et de fatigue où la vue de tant de maux avait déjà jeté notre pauvre jeune homme qu'il arriva à la porte du lieu où se trouvaient peut-être plus de maux réunis qu'il n'en avait trouvé départ dans tout l'espace qu'il avait parcouru jusque-là. Il se présente à cette porte, entre sous la voûte et reste un moment immobile au milieu du portique.